Bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier la BIS, fière commanditaire du podcast. Aujourd'hui, on vous remet un épisode qu'on a déjà fait. Avec le cours de Miles de Little Legend Studios, on était très occupés durant la semaine. Vous avez pu voir nos posts à organiser tout ce cours-là. Puis, c'est la rentrée universitaire, fait que moi, Kevin, j'étais un peu très occupé. Donc, on s'est dit, on va leur remettre un épisode qu'on a déjà fait. Et c'est un épisode qui, honnêtement, est un peu intemporel parce que ça touche encore ce qu'on vit aujourd'hui dans la 10e édition de Warhammer 40 000. On le voit dans Bolt Action, on le voit dans Age of Sigmar. Donc, on s'est dit que ça valait la peine de pouvoir vous le remettre. Donc, un épisode, David nous éduque sur la courbe sigmoïde. Donc, sur ce, sans plus attendre, bonne soirée peinture!
David nous éduque.
Juste un petit mot. La dernière fois que j'écoutais le podcast, après que Max l'ait tout mis ensemble, Maximien est rentré. Il pensait qu'on parlait comme dans un des lundis peinture, donc il a essayé de vous parler. Là, j'ai essayé d'y expliquer que ben non, on s'est enregistré, donc c'est déjà passé, puis ils ne peuvent pas t'entendre. Puis là, il m'a dit papa, est-ce que tu m'as dit bonjour? Je ne dis pas cette fois-là, mais la prochaine fois peut-être. Alors, bonjour Maximilien. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de mon magazine favori, Wargame Soldiers and Strategy. Je vais vous parler d'un article qui est paru dans le numéro 88 en 2017. Je commençais à peine mon abonnement à cette époque-là. Je n'avais même pas la version PDF. Écrit par Richard Clark, et c'est à propos de la courbe sigmoïde. Puis là, comme je ne suis pas un expert des mathématiques, je vais passer la poque à Phil qui peut nous résumer rapidement c'est quoi une courbe sigmoïde.
On va faire ça pas compliqué, mais après ça, on va demander à Kevin de nous donner son interprétation parce que je crois que ça atteint un vague public. David pourra mettre une belle photo puis un lien vers la courbe sigmoïde dans Wikipédia. Je pense que dans la section « On se fait éduquer », c'est très pertinent. Je m'excuse de participer à cette interaction.
Ouais, c'est un peu à contre-cœur.
Je me sens sale un peu. Fait que dans le fond, mais c'est pas compliqué. La courbe sigmoïde, on pourrait faire ça bien simple. Ah, c'est le concept de, là, je vais faire un anglicisme pour faire plaisir à David, de diminishing return. Si tu peux traduire ça.
Retour diminué, pas sûr.
Je t'ai eu.
Ouais.
Mais c'est que dans le fond, c'est quelque chose qui tend, quand tu vas tendre vers l'infini, ben là, on va partir de l'origine. Fait que, mettons, quelque chose qui va à zéro à une valeur quelconque, puis que ça va tendre vers l'infini, vers une pente qui est égale à 1. Donc, ça veut dire qu'au début, il va y avoir une augmentation assez prononcée de la valeur, mais que plus on va tendre vers l'infini, plus il n'y aura aucune augmentation sur ta courbe. Donc, ce que David va nous expliquer, c'est que les gens vont souvent utiliser ce modèle-là pour représenter quelque chose comme... Donnais-tu des exemples? On avait un tout à l'heure. Il y avait, les neurones, c'était pas débile. En tout cas, c'est dans le fond, c'est n'importe quel procédé qu'au départ, pour investir dedans, on va avoir une augmentation fulgurante. Maintenant, je vais donner un exemple. Quand tu t'entraînes à faire un nouveau sport, tu vas voir au début, pour l'effort que tu mets, tu vas avoir un progrès vraiment important.
Oh.
Puis plus tu vas continuer à mettre de l'effort, tu vas mettre tout le temps beaucoup plus d'effort, mais ce que tu vas avoir en retour, ta progression va être vraiment de plus en plus minime parce que tu vas être rendu dans de l'affûtage au lieu d'être dans le début, dans le fond, d'un nouveau projet. Fait que vous aurez la photo. C'est quand même assez clair quand on regarde la pente. Puis là, David va nous expliquer comment il rentre ça dans le wargaming puis les petits bonhommes.
Ben merci.
J'aime ça quand même.
C'est vrai,
que
Kevin,
le moyen de
l'interprétation.
Je voulais juste dire que je trouvais ça cool que tu aies trouvé le moyen de plugger un exemple de sport pour être sûr que les gens comme moi comprennent.
Ouais, j'ai pensé à toi. Pendant que je parlais, j'ai pensé à toi.
Bon, s'il faut absolument que je donne ma version à moi de la courbe sigmoïde, pour vrai, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je pensais que c'était un jeu de mots avec Sigmar puis hémorroïde.
Oh. Ok, sur ce, David.
Merci Philippe pour l'exemple pertinent et l'explication. Donc, dans cet article-là, Richard Clark, qui est aussi un designer de jeu chez Too Fat Lardies, c'est vraiment un drôle de nom, nous parle de façon très dramatique que c'est l'ennemi des jeux de guerre, des wargames historiques, parce que c'est de plus en plus utilisé dans les designs de jeux pour ajuster la portée des armes. Donc, en gros, au milieu de la courbe, avec une portée généralement normale, on aurait les fusées et les mitrailleuses. Les armes à courte portée vont avoir leur portée étendue pour les rendre plus efficaces ou plus jouables sur la table. Et l'artillerie et l'armement des tanks, par exemple, qui ont des portées généralement vraiment énormes, vont avoir leur portée réduite. Et tout ça dans l'idée de vraiment être jouable sur une table, par exemple, de 6 par 4. L'exemple qu'il va nous donner, c'est que si on regarde le 6 par 4, donc 6 pieds par 4 pieds en tête, un soldat moyen d'environ 6 pieds à une échelle de 15 mm, ça donne, là, je m'excuse, c'est en système impérial, là, ce qui nous donne là, l'équivalent d'un terrain de 240 par 120 verges. Verges, j'appelle ça des yards en anglais. Et puis, il dit que même un tireur débutant, le pire du peloton, est capable d'atteindre n'importe quelle cible à cette distance-là avec une mitrailleuse ou un fusil normal. Donc, en théorie, si on voulait quelque chose de très réaliste, sur une table de 6 par 4, tes gars pourraient tirer n'importe quoi. Puis là, il dit, le contre-argument qu'on va me donner, c'est, ben non, on veut pas que tout soit atteignable sur une table, mais il dit, qu'on oublie souvent, c'est qu'en théorie, sur ta table, t'as mis des décors, puis après, il y a une bonne partie du vrai combat de tir moderne, qui est, ben, t'avances, puis t'es piné ou t'es pas piné, puis t'essayes d'éviter le tir de l'ennemi, puis c'est là que la stratégie, en théorie, moderne, va jouer. Il va aussi nous parler du pistolet des officiers. Donc, pour revenir sur cette histoire du pistolet qui a une portée allongée, il dit normalement, on donne aux officiers un pistolet pas pour qu'ils tirent avec à tout moment dans le combat. C'est vraiment au dernier moment, quand le combat est trop rapproché, crucial, que là, ils vont s'en servir pour se défendre. Mais le rôle principal d'un officier, il appelle ça un NCO, Non-Commissioned Officer, d'un officier sur le champ de bataille, c'est de donner des commandements, donc de gérer l'unité, pas nécessairement de se battre, de participer activement en tirant. Et finalement, l'artillerie, normalement, on ne la verra pas sur la table. L'artillerie, dans un moment réaliste, devrait être à plusieurs miles, plusieurs kilomètres derrière les lignes, donc elle n'apparaîtrait pas sur la table. Donc lui, ce qu'il dit, c'est il avance l'hypothèse, puis il dit que ça a déjà été dit par des designers. C'est les designers de jeux, les compagnies de jeux vont dire ben les gens aiment ça voir les tanks et les canons sur la table. Donc on va en mettre, puis sinon ben tu fais partie des losers parce que tu vas perdre de l'argent, tu vendras pas ces modèles-là. Donc il y a toute la partie marketing, puis ça reste des compagnies dont le but c'est de faire de l'argent et de vendre des modèles. Donc on veut répondre aux clients. Donc qui serait une des raisons principales, mais selon lui, lui, on comprend qu'il y a une vision plus réaliste. Il aimerait ça retourner à des jeux plus réalistes. Mais je trouve ça intéressant, donc, son article, parce que ça nous fait nous poser plusieurs questions à plusieurs niveaux. À quel point on veut que nos jeux soient réalistes? Puis, veut pas, il y aura toujours une base de réalisme. Je veux dire, on parle d'un pistolet, tire des munitions, donc un effet qu'on peut concevoir parce qu'il fait un peu partie de notre réalité. C'est pas un gouchemou qui tire des mouchemouches. C'est vraiment lié à quelque chose qu'on a un rapport réel avec. Ça pose la question du marketing, pourquoi les compagnies font ce genre de choix-là, puis c'est quoi l'enjeu, la question aussi du hobby, est-ce qu'on veut des modèles? Moi, je me souviens, mon grand-père, quand on faisait du napoléonien, je lui demandais pourquoi on ne met pas des canons, il disait « Ah, j'aime pas ça », puis normalement, ils sont trop loin de l'action. Je ne veux pas les voir sur la table, ils sont trop loin de l'action. Puis moi, j'étais tout jeune, je voyais le modèle de canon, je disais « Hey, je veux mettre un canon à côté de mes troupes ». Il y a toute cette question-là aussi que je trouve qui devient intéressante.
Parce que dans le fond, tu nous dis que ton grand-père a brisé tes rêves quand tu étais jeune, c'est ça?
Ben, je pense que mon grand-père, son immersion passait par ce qu'il lisait dans les livres à propos des combats napoléoniens. Il tripait vraiment. Fait que son immersion à lui faisait qu'il ne pouvait pas mettre de canon parce que ça n'avait pas de sens.
Ben oui.
Dans la façon dont il se présentait. Moi, en tant que jeune qui commençait à peine à être initié au napoléonien, qui ne lisait pas encore de livres de compte-rendu des batailles, je voyais une figurine de canon, je trouvais ça cool, je voulais la mettre sur la table. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais c'est le degré, je pense, de volonté, d'immersion individuelle qui est mise en cause ici. Puis après, lui, il nous parle surtout du wargame historique, là, mais je veux dire, je pense qu'on peut se poser des questions similaires dans 40 000 ou dans d'autres jeux comme ça. Par exemple, quand il parle des officiers, donc le rôle, c'est principalement le commandement, je trouve que dans les dernières éditions de 40K, sans enlever les effets des pistolets et la portée accrue, ils ont quand même ramené cette idée-là que l'officier a un impact sur les unités autour en donnant des bonus spécifiques, ce qu'il n'y avait pas il y a deux ou trois éditions. Hein. On revient avec cette idée-là. Lui, dans son article, il disait si on enlevait la portée des pistolets, ben, ça forcerait les jeux à redonner ce rôle-là aux officiers.
Ouais, puis tu peux voir cette tangente-là dans les jeux d'Age of Sigmar. Ça a l'air niaiseux, mais je faisais une armée de Night Hunt il n'y a pas très longtemps. Ça faisait partie de mes projets, puis beaucoup des héros qui sont dedans ont un peu un genre de rôle d'officier où est-ce que ils sont pas super bons corps à corps, c'est pas vraiment des casters non plus, ils ont pas d'armes de tir. Leur seule raison d'exister, c'est de booster les autres affaires autour. Fait que leur job, c'est essentiellement une job d'officier, ils gèrent les unités qui les entourent. Et en faisant ça, les rendent plus efficaces. Mais si tu les amènes au corps à corps, ben tu vas être vraiment déçu. La garde impériale aussi, en nom de ce genre d'affaires-là.
Ben oui, la basilisque de la garde impériale, t'as le tank en théorie, c'est le genre de tank qui tire à très longue portée. En théorie, tu devrais pas l'avoir sur la table. Mais c'est un beau modèle. Si t'as envie de le peindre, tout ça, c'est un peu décevant pas pouvoir le mettre sur la table. Donc, il y a ce trade-off-là. Mais si dans 40 000, t'as le bombardement orbital, que là, c'est difficile de faire un modèle pour, mais on peut très bien concevoir qu'une règle remplace le tank si on veut être, en guillemets, plus réaliste.
Ben oui.
Ben, en même temps, le tank a, si je me souviens bien, une portée de genre 3 tables et demie. Effectivement, tu pourrais le mettre en dehors de la table, mais il pourrait être sur place aussi. Là, après ça, est-ce que dans les histoires qu'on se compte, on veut trouver une raison pourquoi il serait sur la table? T'sais, par exemple, la défense d'une position fortifiée, ça serait logique. T'sais.
Ben oui, tout à fait.
Oui, puis tu sais, des fois, la scène d'action que tu veux représenter, elle est peut-être plus proche de l'endroit où est-ce que tu as mis ton artillerie que ce qui était prévu, tu sais. Un ambush où ils ont défoncé les lignes de défense, puis là, ils sont rendus pas mal plus proches de tes lignes d'artillerie. Fait que, tu sais, on en parle souvent là, que dans le narratif, quand on bâtit nos games, il y a comme c'est un screenshot dans le temps, mais ça fait partie d'une beaucoup plus grande... Le portrait est beaucoup plus grand.
Donc, dans des scénarios où t'es l'attaquant, ça serait logique de pas avoir d'artillerie ou de heavy support, mettons. Mais en tant que défenseur, ça peut arriver que... Ça veut dire que l'ennemi s'est rendu jusqu'à tes positions d'artillerie, mettons. Là.
Bon, dans ma tête à moi, ça a du sens.
Ben oui, tout à fait. Ben, encore une fois, je pense que ça va dépendre de qui joue contre qui, puis il faut toujours se laisser la porte ouverte à avoir du plaisir, là. Mais la question est intéressante, je pense, parce que ça va toujours nous ramener à c'est quoi notre rapport au réalisme. Puis il n'y aura pas, c'est très rare qu'on n'aura pas un minimum de rapport au réalisme. On pourra toujours se dire c'est un univers qui n'existe pas, les Space Marines ça n'existe pas, les Tyrannides ça n'existe pas. Il y a toute une partie d'inventer, mais toute une partie d'inventer sur une couche de réalité auquel on peut se rapporter un minimum. Ça pose la question de c'est quoi notre immersion? C'est quoi l'immersion de notre groupe? C'est quoi notre immersion individuelle? Puis ça pose la question aussi qu'on oublie ou qui est souvent caché ou qui est souvent plus utilisé comme critique au lieu d'être vu comme faisant partie de notre monde actuel. Mais tout le côté marketing, c'est quand même des compagnies qui font des modèles. S'ils veulent fonctionner dans notre système actuel, il faut qu'ils vendent de modèles. Donc, il y a des choix qui sont enlignés sur que ça puisse produire le profit nécessaire à garder la compagnie à flot.
Bill,
moi, j'ai pas d'opinion sur la courbe sigmoïde.
Non, c'est correct.
Je disais que j'ai parlé de mathématiques.
Je voulais juste voir si tu avais remarqué comme moi comment est-ce que David il a trouvé une façon de ramener dans David nous éduque un moment pour me rappeler que des motos, ça vole pas puis que je peux pas les utiliser comme que je veux.
Ouais, mais c'est le bout où ce que tu sais, il nous prépare à genre niveler notre jeu pour le ramener au niveau historique. Tu sais, moi je considère ça comme académique là. On est willing là-dedans.
Ouais, c'est ça. On a nos propres agents de malheur.
Tu n'as pas vu comment qu'il amenait ça. Tu sais, mon grand-père, il voulait mettre des canons, mais tu sais, après ça, ça va être, tu sais, c'est comme vous quand vous mettez des motos, tes motos, ils montent ses murs.
Oui, c'est ça. Ah non, Kevin, tu peux pas. Puis je suis comme, non, mais pourquoi je peux pas? Parce que c'est pas réaliste. Ouais, mais check ton Space Marine, il est pas réaliste non plus, puis c'est pas grave. Non, mais là, il y a des limites, Kevin. Ça, c'est comme Harry Man de Black Legion, c'est pas réaliste. Ah là, t'exagères. T'sais, tu vois, tout est dans tout. Tout est dans tout.
Mais c'est ça que je veux dire. On a tout un rapport plus ou moins différent à ce qui est réaliste ou pas. Puis c'est vrai que le Space Marine n'existe pas. C'est vrai qu'il y a tout un côté imaginé, mais encore une fois, il y a plein... Tu sais, il va falloir qu'ils imaginent quelque chose pour dire que la loi de la gravité ne s'applique pas dans la game, fait qu'ils vont faire un graviton ou des trucs comme ça. Il faut qu'il y ait une explication. Comment qu'ils appelaient ça dans les séries ou dans les films, le suspended disbelief, là, pour que tu sois capable.
Ouais.
Ça? Je pense, là, peut-être je vais dire n'importe quoi, mais l'idée, c'est que tu sois capable de suivre l'histoire, même si elle est un peu fantastique, de ne pas décrocher complètement. C'est à quel point tu décroches par rapport au réalisme de ton univers fantastique.
Mm-hmm. Ouais. Bon, ben, je me suis fait éduquer, puis je me suis fait rappeler que mes motos peuvent pas monter ces murs.
Eh oui.
Un bon segment.
Ouais. Merci, David.
Ça fait plaisir.